Bonsoir à vous tous, merci d'avoir organisé cette soirée qui bien sûr s'inscrit dans une période extrêmement importante pour la défense des conquêtes sociales du siècle passé. Parce que vous le savez, la prochaine réforme qui est annoncée s'inscrit dans la tête du gouvernement dans un double mouvement. Il y a d'abord la poursuite des réformes que les gouvernements précédents avaient entreprises au cours des 15 dernières années, je vais vous en reparler, et ce nouveau projet s'inscrit aussi, et c'est peut-être ça qui motive le gouvernement pour marcher très très rapidement pour faire aboutir son projet, il s'inscrit dans la résolution de la crise financière qui a démarré il y a maintenant près de 3 ans, et que tous les gouvernements du monde veulent faire payer à leur population, en épargnant bien sûr ceux qui en sont à l'origine, c'est-à-dire les grandes institutions financières, toutes plus spéculatives les unes que les autres. Et malheureusement, on a un exemple extraordinaire qui est celui de la Grèce en ce moment, où les rapaces de la finance se précipitent sur le maillon le plus faible de la chaîne de la zone euro pour justement tirer le maximum de profit à court terme sur un État au bord de la faillite. Au bord de la faillite, mais qui a été mise en faillite par l'accumulation des politiques néolibérales qui ont été menées depuis un très grand nombre d'années. On parlait dans les années récentes des plans d'ajustement structurel qui avaient été imposés aux pays du tiers-monde dans les années 80-90, et maintenant le FMI, l'Union européenne, viennent d'inaugurer la nouvelle vague de plans d'ajustement structurel qui vont se mettre en place à l'échelle mondiale, et ça commence en Europe par la Grèce, et à qui le tour ensuite. Déjà, les marchés financiers ont pointé le doigt sur les pays qui suivront la Grèce dans ce maelstrom qui condamne les populations à la paupérisation. Alors, notre système de retraite, donc, se trouve être dans la ligne de mire du gouvernement. Alors, pourquoi? Alors, je vais essayer, là, pendant quelques minutes, avant de discuter avec vous, je vais essayer de montrer quels sont les arguments, ou le seul argument, parce qu'il n'y en a qu'un, finalement, qu'ils avancent, et comment on peut démonter pièce par pièce cet argument-là, parce que rien ne tient dans cet argument. Tout est faux. Et des fois, on peut se dire, sur des questions économiques, sociales, ah, il y a du pour, il y a du contre. Non, là, tout est faux, de A jusqu'à Z. Donc, reprenons les choses dans l'ordre, si vous voulez. Alors, je pensais vous projeter quelques images pour illustrer le propos. Bon, il n'y a pas l'appareil, là, il n'a pas été possible d'en avoir un, c'est pas grave. Vous pourrez retrouver ce que je vais vous dire sur mon site internet où figure le diaporama dont je vais vous parler sans pouvoir vous le montrer. Donc, la première chose à décortiquer, c'est ce qui nous est dit tous les jours à la radio, vous vivez plus vieux, donc vous devez travailler plus longtemps. Donc c'est le fameux choc démographique. Alors que se passe-t-il en démographie? Des choses finalement très très simples et normales. Dans toute l'Europe, les taux de fécondité sont en général inférieurs au taux qui assure le renouvellement des générations. Les démographes savent calculer ce taux statistiquement. Il faut que chaque femme ait en moyenne, excusez la virgule, 2,1 enfants par femme au cours de sa vie pour que les générations se renouvellent. En Europe, le taux de fécondité est très inférieur à ce taux qui assure le renouvellement, sauf en France. Sauf en France. En France, ce taux est très voisin du taux qui assure le renouvellement, puisqu'il est de 2,03 selon les derniers chiffres donnés par l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, et l'INSEE. Donc on a, de ce point de vue-là, un renouvellement de génération qui est assuré. Il y a un deuxième élément qui alimente la chronique dite « choc démographique », c'est le fait que l'espérance de vie s'allonge. Est-ce anormal que l'espérance de vie s'allonge? Si le progrès économique et social peut encore avoir un sens, on peut considérer que vivre plus longtemps n'est pas en soi une mauvaise chose. Si, pour les gouvernements et les patronats, c'est une mauvaise chose. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de notable concernant cette espérance de vie? Mais là aussi, il y a un premier mensonge qui est érigé qui est mis en pâture sur la place publique, nous, notre espérance de vie s'allongerait de un trimestre par an. C'est faux. C'est faux. C'était un chiffre qui a pu être valable il y a quelques années ou décennies, mais ce n'est plus le cas. Et en tout cas, l'espérance de vie à 60 ans, qui est l'âge critique, où on part à la retraite, bien que tant encore, cette espérance de vie à 60 ans, et c'est celle-là qui compte pour raisonner en matière de retraite, ne s'allonge que de 1,5 trimestre par an. Et le chiffre exact, c'est même un petit peu inférieur, c'est 0,4. Bon, j'arrondis au pire à 1,5 trimestre par an. Au pire pour les statistiques, hein. Pas au pire pour les individus. Un demi-trimestre de plus par an, bon, qui est très loin du trimestre que l'on nous annonce quotidiennement. Ça, c'est le deuxième élément. Il y a un troisième élément d'ordre démographique qui intervient, qui, celui-là, est plus temporaire. Il joue actuellement, mais il s'éteindra d'ici une vingtaine d'années, parce que nous sommes dans la période où arrivent en âge de prendre leur retraite les classes d'âge nées après la Seconde Guerre mondiale, dans cette période où on a dit que s'était produit un baby boom, c'est-à-dire une très forte natalité pendant l'après-guerre, et ça s'est arrêté, ce baby boom, aux alentours de la fin des années 60. Donc, 60 ans après, 40 ans après, excusez-moi, 40 ans après la fin de ce baby boom, on va voir donc progressivement s'éteindre cette montée du nombre de personnes prenant leur retraite. Mais les trois phénomènes combinés jouent actuellement. Donc on a ce que la presse a appelé abusivement d'ailleurs un vieillissement démographique, parce que si l'on voulait être précis et rigoureux, dans la mesure où il y a une natalité relativement importante, ce qu'on appelle la pyramide des âges se renouvelle. Donc vous n'avez pas, je vais lâcher le micro, vous n'avez pas un rétrécissement de la pyramide des âges, hein. Vous avez au contraire une montée quand on fait l'ascension des tranches d'âge, vous avez une montée à peu près régulière, parce que maintenant, les effets des guerres mondiales, surtout de la première, a quasiment disparu dans la pyramide des âges françaises. Donc, pas de véritable choc démographique. Mais, il est sûr que compte tenu du cumul des trois phénomènes dont je viens de parler, il est sûr que la composition par âge de la population se transforme. C'est-à-dire que pendant les décennies à venir, on va voir une part de la population de plus de 60 ans prendre plus d'importance relative par rapport aux autres tranches d'âge qu'auparavant. Par exemple, aujourd'hui, la tranche d'âge des plus de 60 ans représente environ un cinquième de la population totale, un peu plus de 20%. Et dans quatre décennies, il est prévu que cette tranche d'âge de plus de 60 ans représentera un tiers de la population totale. Bon. Donc ça, c'est un phénomène qui est indéniable, qu'il faut que nous prenions en compte, mais pas au titre de la catastrophe démographique. Et on va le voir dans un instant. Ce qui fait que pour l'équilibre financier de nos systèmes de retraite, on va passer d'une situation où il y a à peu près 4 retraités pour 10 cotisants à une situation où cette proportion va être de 7 à 8 pour 10 cotisants, 7 à 8 retraités pour 10 cotisants dans 40 ans. Donc on va avoir un quasi-doublement, peut-être pas un doublement, mais un quasi-doublement du nombre de retraités par rapport aux cotisants, que sont les actifs. Bon. Est-ce que cette évolution, donc de la composition par âge de la population, est supportable par l'économie? Non, nous disent le gouvernement et le MEDEF. Oui, nous répondons. Et avec, vous allez le voir, des arguments assez solides qu'on va passer en revue les uns après les autres qui vont nous servir dans la bataille que nous allons entreprendre contre la réforme. Mais